L'actualité des Alpes du Sud et un incendie qui a touché un entrepôt de 600 mètres carrés à Gap cette nuit.
Un homme de 51 ans a été brûlé aux mains et légèrement au visage, incommodé en plus par les fumées. Il a été transporté sur l'hôpital Gap en C. 30 pompiers ont été mobilisés sur place et sont venus à bout des flammes vers 2h du matin.
Deux grenades rouillées découvertes au mai lors de la réfection de salles de classe.
C'est à l'ouverture du chantier lundi au groupe scolaire Pasteur que les ouvriers ont découvert ces deux explosifs dans un sous-sol, selon la municipalité. Les démineurs de Marseille sont intervenus sur place.
Je me considère comme innocent. Ça, ce sont les mots de Jean-Marie Bernard prononcés au conseil départemental des Hautes-Alpes.
Le premier depuis sa condamnation mi-mars par le tribunal correctionnel de Lyon pour 3 chefs d'accusation, dont détournement de fonds publics. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir les élus des Hautes-Alpes lors de cette réunion printanière.
La nomination du directeur général du COJOP reportée à lundi prochain.
Elle devait se faire aujourd'hui. Finalement, ce sera en même temps que l'inauguration du siège de la Solideo à Marseille. Cyril Linette est pressenti pour ce poste.
Et puis découvrir les Hautes-Alpes à pied autrement avec l'ouvrage Hautes-Alpes insolites, découvertes et randonnées.
Nicolas Cranchant, l'auteur, s'est intéressé pendant 4 ans sur les anciennes mines, grottes, ruines ou encore bâtiments militaires pour proposer 37 chemins de randonnée pour plusieurs niveaux. Un homme brûlé aux mains et légèrement au visage dans l'incendie d'un entrepôt à Gap cette nuit. Incommodé par les fumées, l'homme de 51 ans a été évacué sur l'hôpital Gapensé. L'entrepôt de 600 mètres carrés a pris feu pour une raison encore inconnue vers 22h15 hier soir. Une trentaine de sapeurs-pompiers de Gap sont intervenus sur place avec 8 engins, dont 3 spécialisés dans l'intervention des incendies. L'intervention, elle, a pris fin vers 2h du matin.
Deux grenades rouillées découvertes au mai lors de la réfection de salle de classe.
C'est à l'ouverture du chantier lundi au groupe scolaire Pasteur que les ouvriers ont découvert ces deux explosifs dans un sous-sol, selon la municipalité. Il s'agirait de grenades défensives datant de la Seconde Guerre mondiale. Le chantier a été évacué, un périmètre de sécurité mis en place le temps de l'intervention des démineurs de Marseille qui ont détruit les explosifs. Le chantier a pu reprendre dans l'après-midi en toute sécurité. En bref, un jeune de 25 ans qui a gravement blessé hier matin dans un accident de la route. C'était au niveau du pont du Riou sur la commune de Salignac. Une voiture seule impliquée dans l'accident s'est retrouvée en contrebas de la route départementale 4. Deux véhicules de pompiers ont été mobilisés sur place ainsi qu'un médecin du SAMU et un chef de commandement. La victime, elle, était évacuée sur un hôpital du territoire.
11 rétentions de permis de conduire ce week-end à Gap.
Toutes pour conduite en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants. Parfois même les deux, indiquent même la police nationale des Hautes-Alpes. Les forces de l'ordre ont constaté sur l'ensemble des contrôles menés dans la ville préfecture, 18 délits routiers, 15 contraventions au total ont été dressées. Un véhicule a été, lui, placé en fourrière.
Je me considère comme innocent. Ce sont les mots de Jean-Marie Bernard lors du premier conseil départemental des Hautes-Alpes depuis sa condamnation à la mi-mars.
Dans ce dossier judiciaire où il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité, le président des Hautes-Alpes s'est interrogé devant les conseillers départementaux sur les raisons de sa condamnation pour détournement de fonds publics, favoritisme et prise illégale d'intérêts. Des mots qui ont fait réagir dans l'hémicycle départemental. Déjà à la mi-mars, quelques conseillers, tout comme les deux députés du territoire, Valérie Rossi et Marie-Josée Allemand, avaient demandé la mise en retrait du président qui a fait appel de cette décision. Ce débat a animé la réunion de printemps de l'Assemblée du territoire dès les premières prises de parole, Aurore Valory.
À commencer par le propos introductif du président du département, il a aussitôt évoqué ce sujet pour indiquer qu'il avait interjeté appel de cette décision. Le dévoluard s'en est expliqué aussitôt.
Tout simplement parce que je me considère innocent et que je considère n'avoir rien à me reprocher dans la passation du marché mis en cause, celui de location de longue durée de véhicules à usage des services du département. Aussi, j'ai le sentiment que j'ai des arguments à faire valoir et qui n'ont pas été entendus par le tribunal. Je m'interroge donc sur les raisons de ma condamnation en première instance, d'autant qu'encore aujourd'hui, la motivation de ce jugement est inexistante et que le tribunal correctionnel de Lyon est incapable de m'en communiquer la teneur.
Le président a rappelé qu'il demeure innocent malgré, je cite, les clapissements de certains conseillers départementaux, argumentaire sur lequel ont immédiatement rebondi les élus indépendants de Tallard, Jean-Baptiste Théo et Séverine Rambeau, deux élus qui avaient demandé la mise en retrait de Jean-Marie Bernard après sa condamnation au mois de mars.
Ce qui nous préoccupe, je le dis avec solennité, c'est qu'ici s'entrechoquent éthique et politique. Alors crions-le haut et fort une nouvelle fois, avoir interjeté appel vous accorde le statut de présumé innocent, c'est la loi et nous ne le discutons pas. Il nous faut admettre, malgré tout, que si un élu qui assume des responsabilités publiques demeure un justiciable comme un autre, pouvant de facto contester devant les juridictions compétentes une décision de justice qui lui serait défavorable, ce même élu, aux yeux du citoyen lambda, qu'on le veuille ou non, n'est pas totalement un justiciable comme un autre. C'est précisément là, chers collègues, que le tribunal judiciaire se trouve en conflit direct avec le tribunal populaire.
En réponse aux arguments des élus indépendants, Arnaud Murgia, conseiller départemental et maire de Briançon.
L'éthique et la responsabilité doivent s'appliquer à tout un chacun. Vous avez totalement raison, mais je crois que ça va dans les deux sens. Et je crois que le président a dit quelque chose d'assez simple, consistant à dire qu'il ne demandait absolument pas à avoir plus de droits que les autres, mais il demandait à ne pas en avoir moins. La situation est assez simple, elle ne le regarde finalement que lui. Il n'a pas plus de droits que n'importe quel citoyen, il n'en a pas moins par contre, et il a le droit de se défendre, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, dans le respect de toutes les procédures judiciaires. Et moi j'appelle tout simplement à ce qu'on s'en tienne à ce point de droit le plus simple.
Pour rappel, au moment de la condamnation, l'édile de Briançon n'avait pas commenté la décision de justice.
Merci Aurore. L'ordre du jour, lui, concernait les Jeux Olympiques d'hiver 2030, les travaux sur le col du Galibier prévus désormais pour 2026 ou encore le RSA, c'est le département qui finance le revenu de solidarité active. À ce sujet, l'instance départementale a indiqué refuser d'augmenter d'1,7% le montant de l'allocation prévue par la CAF pour le 1er avril. En cause, les dépenses demandées par l'État au département, plus 1 milliard d'euros pour 2025 par rapport à 2024. Jean-Marie Bernard a précisé que son instance s'engageait à ne pas payer toute dépense nouvelle ou supplémentaire décidée unilatéralement par le gouvernement et qui ne serait pas compensée par lui. Selon l'élu, le modèle social français a un prix et chacun doit bien comprendre que son coût ne peut pas être assumé par les seuls départements.
La nomination du directeur général du COJOP n'est pas pour aujourd'hui comme prévu initialement.
Elle se fera le 14 avril prochain, soit lundi, lors de l'inauguration du siège de la Solideo à Marseille. Officiellement, le cabinet du président des Alpes françaises 2030 précise que les contraintes d'agenda n'ont pas permis de mener à bien toutes les rencontres et consultations en amont du bureau exécutif. Edgar Gros-Piron souhaiterait en effet finaliser la série d'échanges engagés avec l'ensemble des parties prenantes et le directeur général pressenti. C'est Cyril Linette qui fait figure de favori pour ce poste.
Et puis notez que les services des impôts des Hautes-Alpes de Gap déménagent le temps de la campagne annuelle de déclaration des revenus.
Habituellement basés dans la cité des Michels, les agents administratifs vont accueillir les particuliers à l'Alparena entre le 14 avril et le 28 mai prochain. C'est le temps de la campagne annuelle de déclaration de revenus. Vous pouvez venir sans rendez-vous entre le lundi et le mercredi ainsi que le vendredi entre 8h30 et 11h. L'accueil sur rendez-vous a lieu, lui, les après-midi entre 13h30 et 16h, sauf le jeudi, et sera assuré dans les locaux de la cité des Michels. Un point d'encaissement sera mis en place à l'Alparena mais ne concernera que les opérations par carte bancaire. Les paiements en numéraire sont possibles auprès des buralistes agréés.
Et c'est donc une découverte des Hautes-Alpes à pied autrement que l'on vous propose avec l'ouvrage Hautes-Alpes, insolites, découvertes et randonnées.
Nicolas Cranchant, l'auteur, s'est penché sur les anciennes mines, grottes, ruines de bâtiments militaires ou encore anciens canaux. Mettre en lumière ces vestiges méconnus a demandé 4 ans de travail à cet accompagnateur de montagne, également maire d'Abriès-Ristolas dans le Queyras. C'est avec le photographe Nicolas Fragiacomo qu'il a arpenté les sentiers des Hautes-Alpes et les archives départementales pour faire naître cet ouvrage qui propose 37 randonnées de plusieurs niveaux.
Souvent dans les topo-guides de randonnée, on a effectivement quelques informations de ce qu'on peut découvrir sur un itinéraire. Et puis on a beaucoup d'informations pratiques, mais on n'a pas beaucoup de renseignements précis sur l'histoire des lieux, sur les particularités géologiques, sur tout ce qui fait un peu la richesse du patrimoine qu'on peut rencontrer au cours de la randonnée. Moi, ça fait maintenant plus de 30 ans que je parcours le département des Hautes-Alpes. Donc avec Nicolas Fragiacomo, on a mis en commun nos expériences d'accompagnateurs en montagne pour pouvoir choisir les itinéraires qui nous semblaient les plus pertinents et les valoriser en décrivant tout ce qu'on pouvait y trouver en termes de patrimoine humain notamment. On en a sélectionné 37, donc ce sont tous des coups de cœur. En fait, on en a réalisé une cinquantaine, mais on a gardé que ces 37-là parce qu'on a aussi fait le choix dans notre guide de ne pas finalement divulguer d'informations trop sensible sur des secteurs qui auraient pu être un peu dégradés par une trop forte fréquentation, par exemple.
Hautes-Alpes insolites qui rappellent aussi les bonnes pratiques à adopter en montagne autour de trois mots d'ordre, discrétion, respect et humilité. Vous pouvez retrouver ce livre paru aux éditions Glénat dès à présent dans vos librairies.
Et c'est donc Pierre Bergeron qui se racote une saison de plus chez les Diables Rouges de Briançon.
Arrivé de Chambéry à l'été 2024, Pierre Bergeron a signé une première saison plus que convaincante avec les Rouges et Noirs. Si les premiers mois ont été difficiles, le Canadien a trouvé la recette magique à la mi-janvier. Depuis cette date, les Rouges et Noirs ont totalisé lors de la saison régulière 10 succès. En 13 rencontres avec des victoires probantes signées contre Rouen, champion de France en titre alors, ou encore Grenoble devenu champion de France ce week-end. Ces réussites auraient pu connaître une apothéose avec une qualification en play-off, un objectif annoncé en début de saison manqué d'un petit point seulement. Mais grâce au coach, les Diables Rouges n'ont pas terminé dernier comme ce fut le cas les saisons précédentes. Le club de la Cité Vauban s'est maintenu aisément lors des play-downs en mars.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.